Au premier trimestre 2022, un niveau de mise en vente et un stock qui n'ont jamais été aussi bas, respectivement depuis 2009 et 2010, annonçait l'Observeur de l'immobilier à propos des logements neufs au sein de l'aire urbaine de Toulouse. La nouvelle présidente de cet observatoire est en ligne avec nous. Bonjour Laetitia Vidal.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Laetitia Vidal, directrice générale de Pierre Passion Promotion Immobilière et vous succédez à Jean-Philippe Jarnaud, à la tête de l'Observeur pour une période de 3 ans. Au plus bas pour les ventes de logements neufs. Qu'est-ce que représente cette baisse?
Écoutez, en effet, un premier trimestre avec des résultats assez inquiétants pour nous, avec en effet une baisse extrêmement importante des mises en vente qui représente moins 33% par rapport au premier trimestre 2021 et moins 42% par rapport au premier trimestre 2020.
Une baisse très grave. Est-ce que cette baisse se voit sur tous les secteurs, sur le marché des particuliers et aussi sur le marché des constructions
Des ventes en bloc.
Des ventes en bloc,
Oui.
voilà.
Tout à fait, exactement. On a bien évidemment, alors les mises en vente sont en forte baisse, un impact aussi sur les ventes totales, hein, que ce soit en effet les ventes au détail à des particuliers ou les ventes, alors ce qu'on appelle les ventes en bloc, c'est-à-dire les ventes que nous faisons à des investisseurs institutionnels ou à des bailleurs sociaux, puisque là on note carrément un effondrement, hein, sur ce premier trimestre. Alors ces chiffres sont bien sûr à analyser ensuite de manière un petit peu plus large en fin d'année, mais sur le premier trimestre 2022, on enregistre une baisse de 87% des ventes en bloc, donc à investisseurs institutionnels et bailleurs sociaux, et une baisse au niveau des ventes aux particuliers, des ventes au détail, de plus de 5%. Voilà, donc ça impacte l'intégralité du secteur.
Puisque vous parlez des particuliers, Laetitia Vidal, est-ce que la typologie des acheteurs a changé?
Alors très étonnamment, Toulouse est historiquement un marché sur lequel nous avons une réelle part d'investisseurs. Et sur ce premier trimestre, il faut remonter à 2013 pour retrouver des chiffres comme cela. On a une baisse de 30% des investisseurs. Alors facialement, comme ça, on pourrait se réjouir en disant que les accédants à la propriété reprennent des parts de marché importantes. Mais je crois qu'il faut creuser un petit peu plus et chercher aussi l'impact. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un investisseur, c'est une personne qui va acheter un logement qui va être mis en location dans quelques mois. Donc, moins d'investisseurs, ça veut dire sur un marché qui est déjà de la location extrêmement tendue à Toulouse, moins d'offres locatives de qualité, sous plafond de ressources, puisqu'on parle principalement de la loi de défiscalisation Pinel, hein, qui est une loi qui encadre et les loyers et les plafonds de ressources des futurs locataires. Donc, une offre vraiment alternative attendue sur Toulouse et qui permet de maintenir des loyers cohérent. Donc, une baisse d'investisseurs, ça veut dire aussi la baisse de cette offre dans quelques mois. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, surtout, aujourd'hui, baisse de la production, baisse des ventes, parlons d'emploi. Un logement aujourd'hui, c'est 2 emplois non délocalisables sur la région, sur l'aire urbaine. Sans ces logements, ça sera pas, il n'y aura pas non plus les emplois qui vont en face.
Oui, évidemment, des conséquences à venir qui sont graves. Je précise que l'Observeur de l'immobilier a vraiment fait cette étude sur Toulouse et les 453 communes, vous me disiez, qui sont autour de la ville de Toulouse.
Exactement, on travaille sur l'aire urbaine dans son intégralité. Donc, on a vraiment une étude exhaustive, oui, totalement.
Est-ce que cette région toulousaine est la seule dans ce cas? Et, par exemple, quand on compare à Bordeaux ou à Montpellier?
Alors, c'est un phénomène national, hein, ce repli. Cependant, Toulouse est particulièrement impactée, comme la métropole Montpellier-Rennes aussi, hein, puisque sur Montpellier, alors toujours pareil, sur ce premier trimestre, on enregistre moins 41% des mises en vente. Voilà. Là où Bordeaux, par contre, connaît un léger rebond avec un plus 5% sur ce début 2022 par rapport à 2021, mais ça masque quand même les moins 33% de baisse des mises en vente par rapport à 2020. Donc, vous voyez, ça reste un schéma national où on a vraiment une alerte. D'ailleurs, le président national de la FPI relaie aussi ce message. C'est véritablement une problématique nationale. Et voilà, le logement, si on ne se mobilise pas tous à chaque niveau, on est face à une grave crise du logement. Ça, c'est très clair. Mécaniquement.
La FPI, la Fédération des
Oui.
promoteurs immobiliers.
Exactement.
Laetitia Vidal, quelles sont les raisons d'une telle baisse?
Les raisons principales, alors on a toujours plusieurs raisons très certainement à ça. Aujourd'hui, la raison principale quand même, c'est la très forte baisse des autorisations de construire. Voilà, les maires délivrent de moins en moins d'autorisations de construire, mais les maires répondent aussi aux attentes de leurs administrés. Donc aujourd'hui, on a une baisse de l'acceptabilité des concitoyens envers la construction. On peut comprendre, on peut entendre, c'est inconfortable. La densité, surtout à Toulouse, est une problématique. On parle aujourd'hui plutôt d'intensification de la ville. Il faut retravailler là-dessus. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que
Qu'est-ce que vous entendez par intensification de la ville?
Ben, l'intensification de la ville, c'est déjà par reconstruire la ville sur la ville, hein, puisque ça, c'est un des enjeux auxquels nous allons devoir répondre immédiatement, pas demain, maintenant. Reconstruire la ville sur la ville, l'intensifier, c'est-à-dire peut-être pour pouvoir dégager les rez-de-chaussée, intensifier les espaces verts, ça va nécessiter bien évidemment de monter un petit peu plus, hein, de créer un petit peu plus de hauteur, mais tout ça pour gagner de la qualité de vie au pied donc de nos habitations. Et ça va nécessiter des changements un petit peu de mentalité, ça va nécessiter que la population accepte un inconfort passager, parce que reconstruire la ville sur la ville, c'est inconfortable,
Oui, parce
c'est
qu'il faut
sûr.
démolir et puis reconstruire au
Et
même endroit,
il
c'est
faut
ça?
déconstruire, il faut reconstruire, voilà, il faut recréer les infrastructures autour, et tout ça, ça demande, ça se fait pas un claquement de doigts, donc, et aujourd'hui, accepter l'inconfort, c'est de plus en plus compliqué au niveau
Oui.
des populations.
Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi parti, enfin pris aussi par les exigences en termes d'écologie, puisque là aussi vous devez avoir certainement oui, c'est ça, des exigences,
Alors,
à ce
en
niveau-là.
effet, c'est un élément de plus, donc qu'il faut intégrer dans cette équation. Nous sommes passés maintenant sur la réglementation environnementale 2020, la RE2020, dont vous avez beaucoup entendu parler, donc qui est vertueuse dans le sens que nous allons produire des logements encore plus vertueux en termes d'économie d'énergie, en termes de confort d'été, en termes de pérennité. Mais cela demande bien évidemment encore des adaptations et tout ça. Accentuée par, on en parle, hein, elle est là, en filigrane derrière, cette crise internationale et la crise en Ukraine qui ont provoqué une très très forte augmentation des coûts de travaux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'équation devient de plus en plus difficile à résoudre, en effet, oui.
Oui. Et justement, vous parlez de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Dans quelle mesure ces deux crises, ces deux conflits ont aggravé la situation?
Alors, elles ont impacté de manière différente. La crise sanitaire a révélé plutôt, je dirais, des changements de paradigme au niveau de l'usage des logements. On le voit aujourd'hui très clairement. Les gens ont des attentes, enfin les futurs acquéreurs ont des attentes un petit peu différentes, sont beaucoup plus attentifs sur la qualité justement des espaces verts, des annexes, des terrasses, sur la possibilité de pouvoir télétravailler. C'est
Donc ça, c'est l'effet confinement, on va
véritablement.
dire.
Ah oui, complètement. Mais on se posait la question, on se disait, est-ce que ça va être bon,
Durable.
passager? Non, véritablement, je pense que ça a duré assez longtemps pour que ces réflexes s'ancrent dans la décision d'achat actuelle, en tout cas. Donc ça, c'est aussi une réflexion à mener pour nous, hein, sur l'évolutivité des logements et ce que l'on va proposer en termes de solutions pour mixer ces usages. Et ensuite, ben, la guerre en Ukraine, comme je vous le disais, ça, c'est immédiat, c'est des pénuries de matériaux, c'est une très forte augmentation du coût des matières premières qui s'impacte directement aujourd'hui sur les coûts de travaux. Donc les filières du bâtiment et de la promotion immobilière sont en grande difficulté pour continuer à mener à bien voilà les opérations sur les prix promis avancés aux acquéreurs. C'est extrêmement complexe.
C'est complexe et vous dites, Laetitia Vidal, qu'il faut que vous vous adaptiez, voilà, aux nouveaux besoins. Est-ce qu'il y aurait des solutions quand même qui pourraient être envisagées? Parce que vous parlez aussi des maires qui sont tiraillés entre ce besoin de loger leur population et puis les souhaits de leurs concitoyens de préserver des espaces verts et de ne pas avoir des constructions trop hautes. Et quelles sont les solutions?
Alors, si je les avais toutes, je serais très, très heureuse. Cependant, je crois que la solution, elle viendra de la solidarité à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'État soutienne les maires et les incite à construire, que les maires aussi prennent bien évidemment des positions courageuses, mais que nous, de notre côté professionnel, on les aide à faire de la pédagogie auprès des populations en proposant des projets de qualité et de plus en plus de qualité, en étendant la concertation, et puis surtout en leur apportant des projections. La problématique aujourd'hui, c'est que l'aire urbaine de Toulouse doit accueillir chaque année l'équivalent d'une ville comme Cugnot. Comment allons-nous répondre à cette demande-là s'il y a un effondrement de la construction neuve? Ça va générer mécaniquement une augmentation des prix de vente, ça va générer des difficultés pour les concitoyens à loger leurs enfants, à loger leurs aînés. Voilà, c'est ces conséquences-là dont il faut parler aussi. C'est pas simplement, bien évidemment, la construction, encore une fois, ça apporte de l'inconfort, en tout cas de manière durant les travaux. Mais à un moment donné, ça répond aussi réellement à un besoin, et un besoin qui sera certainement dans chaque famille à un moment ou à un autre.
Et quand vous dites inciter les maires à bâtir, est-ce que ça pourrait être, par exemple, comme le propose la Fédération des promoteurs immobiliers, de faire une pause de 2 ans dans les normes ou de libérer de baisser la TVA pour relancer le secteur ou de libérer des terrains publics? Est-ce qu'il y aurait des...
Ouais, il faut.
C'est
Il faut
ça?
avant tout libérer des fonciers. Il faut avant tout libérer des fonciers. Aujourd'hui, on fait de gros efforts pour s'adapter, pour mettre tous les logements donc en phase avec cette RE2020. On n'avance pas seul dans la construction. On est avant tout nous un métier de metteur en scène, de chef d'orchestre. Donc, sans avoir les industriels qui nous proposent des solutions aussi, on peut pas faire. Donc, on ne peut pas faire seul. C'est véritablement à toute la filière, que ce soit du bâtiment, des industriels, du bâtiment et de la promotion, d'avancer conjointement. Donc, c'est en ça aussi que c'est difficile. Nous n'avons pas les solutions seules. Ça,
Oui,
c'est évident.
et d'autant plus que vous attendez peut-être aussi un petit coup de pouce de l'État parce qu'il y a eu cette installation en juin 2021 d'une commission nationale de relance de la construction qui était présidée par le maire de Dijon, François Rebsamen. Il avait plaidé pour un mécanisme d'incitation-sanction des élus locaux et puis il a fait marche arrière. Est-ce que là, l'État a quelque chose entre ses mains?
Aujourd'hui, on le sait, vous le voyez aussi dans tous les médias, nous avons la sensation, toutes les filières du bâtiment, que le logement est le grand absent, bien évidemment, et de la campagne et de la construction de ce nouveau gouvernement. Nous attendons là, les jours à venir, mais le président donc de la Fédération des promoteurs immobiliers œuvre aussi en ce sens. Il faut en tout cas quelqu'un qui prenne ce sujet à bras-le-corps, parce qu'aujourd'hui, le logement, ça reste quand même un des piliers de la sécurisation des ménages, et il faut pouvoir répondre à ces demandes-là. Et en effet, si les maires ne sont pas soutenus, ça restera problématique. On ne peut pas tout faire peser et faire peser toute la responsabilité sur les maires, c'est évident.
Dernière question très courte, Laetitia Vidal. Le logement social est-il victime de cette pénurie de construction neuve?
Totalement, mécaniquement, encore une fois, ça aura un impact direct, puisqu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers effectuent à peu près 2 tiers de la production du logement social. Donc, même si je ne peux pas répondre hein, pour le logement social, obligatoirement, mécaniquement, baisse de la construction dans le logement neuf égale baisse de la production de logements sociaux.
Qui représente quelle part la production?
Alors, 2 tiers aujourd'hui, nous produisons à peu près 2 tiers de la production des logements sociaux.
Merci
Voilà.
beaucoup, Laetitia Vidal. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Observeur de l'immobilier. Merci pour ce coup de zoom sur la pénurie des logements neufs à Toulouse et dans son aire urbaine.
Merci à vous, bonne journée.